France Culture.
Now let's do the great pentagram. Stand tall. Now raise your arms, both arms, as high as you can. High, high, high. And then we're reaching toward each other. With love and hope and compassion. And then we open our mouths, ready to cry out against injustice. Now stick out your tongue as far as you can. Way out. Way, way out. Roll three times right from the depth of your belly.
Quand les femmes vieillissent, une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault.
Voilà cette photo.
Épisode 4, c'est donc un bel âge pour la révolte.
Au mois de juillet, ça devait être en 76, on est à Venise sur un perron et la mère est là, tu vois.
Chantal Latour.
Il y a Maggie Kuhn qui est là. Il y a Roselyne, une copine qui s'occupait de toute l'administration des Panthères Grises, elle était basée à Philadelphie. Il y a deux gars là, Steve et lui, je sais plus comment il s'appelle, avec un chat dans les bras, tu vois le genre. Et là, tu vois, on fait de la musique.
Et là, vous avez quoi
en... Ben là, on est jeunes.
Mais Maggie, elle est...
Ah non, Maggie, elle avait 77, je crois, à l'époque. Et c'était une femme extrêmement vivante, drôle, se prenant pas du tout au sérieux. Elle était une ancienne institutrice, elle était dans l'église presbytérienne, je crois, une femme hyper active et tout ça, comme il y en a plein aux États-Unis. Et elle, son point de départ, évidemment, c'était les luttes contre la guerre, etc., le racisme et le féminisme, et c'est qu'elle a été complètement furieuse le jour où elle a dû prendre sa retraite obligatoire. Donc dans les Panthères Grises, il y avait vraiment un mouvement anti-retraite obligatoire. Et ça allait complètement à l'encontre des pratiques américaines de chacun peut faire ce qu'il veut, on décide soi-même, il n'y a pas de législation. Donc la lutte contre la retraite obligatoire, c'était un thème vachement important pour les Panthères Grises de l'époque, quoi. Et Maggie est venue enseigner le community organizing, qui était le travail communautaire à la manière des Panthères Grises à l'université à UCLA de Los Angeles. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés le soir dans une maison au bord de la mer avec toute une bande de gens, avec un bonheur, sans drame et sans tristesse, quoi. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'humour. Et puis les Panthères Grises n'étaient pas tellement prises au sérieux parce que ce n'était pas du tout une organisation classique. C'était marrant, c'était des femmes, elles avaient envie de parler de tout. Enfin, ce n'était pas du tout le modèle classique des organisations américaines.
You know, what can you do? I mean, this is a new age, it's a tech age. Grandma, you don't know computers. What you know is dumb. Nobody does that anymore.
En termes féministes, femmes, 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 c'était pas tellement leur truc, quoi. C'était des femmes, t'avais pas une seconde à t'inquiéter sur la façon dont elles ont géré leur vie et où elles ont pris le pouvoir depuis toujours, quoi. C'était des personnalités absolument géniales. Genre, on n'aurait pas employé le mot performance, mais il y a beaucoup de théâtre de rue. Et là, dans les photos que j'ai, tu vois, c'est des Chinois avec des panneaux. Et là, on défendait les problèmes de salaire des aides ménagères, slave labor, les soins, l'accès aux lieux pour les très vieux dans des équipements, travail et retraite, et d'autre part, la question de la qualité du travail. Tout de suite, ils ont une visée collective, quoi. On ne fait pas ces trucs dans son coin, dans une petite réunion, dans un coin paumé. Tout ce qu'on fait doit être diffusé, et alors qu'on est dans les années 75, quoi. C'est pas. Je me suis trouvée complètement à l'aise, et d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai passé ces deux années de façon si drôle. Et alors que c'était pas très facile parce qu'on n'avait pas beaucoup de fric, on était très occupés, je savais pas où placer ma fille, donc je voulais pas du tout m'occuper parce que ça m'embêtait de rester toute la journée à la maison avec elle. Mais tu vois, c'est pas des gens que tu vois d'habitude dans les manifs, hein.
Le terme d'agisme a été forgé en 1969 par un gérontologue, Robert Butler, aux États-Unis.
Juliette Rennes, sociologue.
Dénoncer les discriminations et les stéréotypes négatifs sur les personnes catégorisées comme vieilles. Et puis le sens du terme s'est un petit peu élargi au fil des décennies. Là où il y a agisme, c'est quand cette exclusion ou cette frontière d'âge est vécue comme arbitraire. Elle repose sur des préjugés qui sont sans lien avec ce que sont les personnes. Par exemple, autour du travail des femmes dans les années 1900, ce qui arrive, c'est qu'elles sont rejetées de métiers, la confection, la couture, autour de la quarantaine, alors même qu'elles ont absolument conservé leur capacité à exercer ces métiers-là. Donc, l'agisme, il y a des dimensions qui peuvent relever du droit antidiscriminatoire, quand notamment c'est dans le monde du travail ou quand ce sont des services, des prestations qui sont refusées à des gens âgés, par exemple en matière d'assurance. Ensuite, il y a des cas qui relèvent des relations interpersonnelles et tout ce que montre, par exemple, Marie Bertram sur la façon dont les femmes vieillissantes sur les sites de rencontres en ligne, le critère d'âge qui peut être présélectionné pour faire ces rencontres élimine ces femmes-là, les hommes de leur âge cherchant des femmes plus jeunes qu'eux.
Une femme, une vieille femme, une vieille. Une vieille est-elle encore une femme ? Une vieille n'est pas. N'a jamais été une femme. Une femme ne se voit pas vieille femme. Ne se veut pas vieille femme. La vieille, c'est toujours l'autre. Les mouvements de libération des femmes ne négligent pas, certes, le problème de la femme vieille, mais comment dire, s'y intéressent accessoirement, académiquement. Parce que les mouvements de femmes sont jeunes. En France, du moins, leurs militantes sont jeunes. Aux États-Unis, en Angleterre, où ces mouvements existent depuis beaucoup plus longtemps, où en fait l'idée même de la libération des femmes aînées, leaders ont souvent dépassé la soixantaine. Même vieux, on ne se sent pas vieux, on n'accepte pas, on sera vieux demain. Jeune ou vieille, là est le tabou le plus terrible, le plus universel de nos tabous, parce que fondé non sur un fantasme, mais sur le réel, sur l'inéluctable, évolution à sens unique de notre vie. D'où la difficulté, le refus viscéral, l'impossibilité d'un discours cohérent s'agissant de la vieillesse et du passage à l'action politique.
Vous êtes à l'origine du journal Mathusalem ?
Un petit groupe, je n'étais pas toute seule. Et...
Vous étiez combien ? Vous vous souvenez ?
Il faudrait regarder le premier Rousse. Je ne sais pas, on était peut-être 5-6.
Dominique Boltanski, psychanalyste.
Ça a été issu d'un contre-congrès. Il y avait eu, dans ces années-là, un congrès international de gérontologie très officiel. Nous étions plusieurs à travailler dans un lieu social qui s'appelait le Tournesol, intergénérationnel, subventionné essentiellement par les petits frères des pauvres. Donc, celle qui dirigeait le Tournesol, qui était une psychologue, Marie-France Carenzo, Geneviève Boucher, moi-même et bien d'autres, nous avons organisé, rue de Charonne, un contre-congrès.
Oh, écoutez, on a fait tellement de choses. Première rencontre.
Il y avait des journées du troisième âge, c'était en 77. C'était sur la solidarité nationale. Et voilà l'article de l'intégrale de Chantal, des Panthères Grises. Oui. Et vous avez un inédit, comme des sons d'un être messager. Voilà, je me cale, je ne bouge plus comme mon chien.
C'est quand même une époque où il faut se rappeler que beaucoup de personnes âgées n'avaient pas les moyens de se nourrir.
Oui, puis il y avait cette nécessité d'être aidé par le bureau d'aide sociale. Après, les choses ont changé. C'est pour ça qu'on ne peut parler de ça que si on se remet dans le contexte des années 70.
Regardez-les bien. Ils baissent la tête tristement. Comment feront-ils aujourd'hui, demain et les jours suivants pour survivre avec leurs maigres ressources ?
Il y avait beaucoup de veuves qui avaient
quelques
très peu de moyens.
Quelques pièces de monnaie suffisent à payer leurs achats.
Ils n'avaient pas travaillé.
Qui se perdent dans un cabas devenu trop grand.
Très peu de moyens.
Ils ont faim. Ils ont froid. Tout leur manque. Et c'est pour cette raison que le 2 décembre, place de l'Opéra, 3 000 d'entre eux ont manifesté. Comme vous le verrez dans quelques instants. 3000 parmi les 2 500 000 personnes âgées qui actuellement en France vivent, si l'on peut dire, avec 3 nouveaux francs par jour. Certains ont encore moins, d'autres un tout petit peu plus. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils sont condamnés à vivoter. Quelquefois, un voisin charitable leur donne un dessert, un potage.
Avec cette paralysie enfantine, forcément, qui est poliomyélite maintenant.
Souvent,
alors je fais le régime très simple, des petites pâtes, des petites purées, des petits potages pour le soir.
C'est dur, c'est le charbon en ce moment.
Ce qui est délicat quand on est survivant d'une petite aventure, c'est quand même quand je regarde l'ours du numéro de 1977.
Mathusalem, le journal qui n'a pas peur des vieux.
Il y a déjà beaucoup de gens qui ont quitté cette planète.
Numéro 3, décembre 1976, janvier 1977.
J'ai commencé à travailler vers 22 ans dans le service social.
Donc vous avez fait une formation de travailleur social, c'est
et
ça
de psycho.
Et vous étiez aussi engagée, c'est ça, à la MGUN?
Ah oui, j'avais commencé comme ça, dans la santé mentale. Mais très vite, alors il y a quelqu'un dont il faut honorer la mémoire, c'est Ginette Bourgeron, qui est un professeur de service social, qui avait une très grande créativité, qui travaillait dès la naissance de la sectorisation psychiatrique du 13e arrondissement. Et qui avait un mari psychanalyste, Jean-Pierre Bourgeon, tous deux travaillaient dans le 13e avec une équipe de psychiatres et de psychanalystes, avaient découvert que dans le 13e, les consultations de psychiatrie étaient un peu envahies par des problématiques de personnes vieillissantes. Alors, c'était très cocasse parce que ça, j'étais avec un ami et elle nous avait chargé, on n'était pas médecin, ni infirmier, de créer des groupes et de l'animation de groupes.
Il y avait donc le club des 4 saisons.
Joie et loisirs, devenu joie et plaisir.
On y fait de la peinture, on joue à la belote.
C'est une sorte de centre aéré.
Vous dansiez.
On fait des excursions. Il faut faire des trucs un peu marrants.
Et vous n'y restez pas. Et donc vous partez dans une autre aventure qui est assez similaire avec un autre groupe de personnes.
Le tournesol.
Pour ce centre intergénérationnel.
Soutenu dans son action par les associations, partis de gauche et syndicats du 11e, appelle les habitants d'un quartier déjà défavorisé à se regrouper, à prendre la parole et à agir pour être partie prenante de ce qui se passe là où ils vivent.
Déjà, Geneviève Vaucher, qui était psychologue dans un centre de jour du 13e, et une psychologue, Marie-France Carinzo, qui restait dans la recherche toute sa vie à ma connaissance. Et l'idéologie que je ne connaissais pas, mais un peu folle, des petits frères des pauvres. Du luxe au lieu des besoins, enfin un truc comme ça, vous voyez. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même de la beauté, de faire des choses un peu... C'est pas simplement bien manger, être propre, qu'il faut aussi un peu d'imaginaire et de rêve. C'était les petits frères des pauvres. Et ils finançaient.
Et alors, le club, à un moment donné, se trouve en difficulté?
Pas le club, le centre. Centre d'information, le tour de sol. Oui, se trouve en difficulté financière. Et un peu trop d'agitation politique, assez douce. Dans mon souvenir, on était vécu comme une officine du PSU. Voilà. Enfin, c'est fermé. La mairie, on a jusque là, se voir, c'est fermé.
Et qui vous a soutenu avant que ça ferme?
Cabu. Cabu, les gens du quartier.
Charlie Hebdo.
Ah oui. Bah oui, c'était des copains. Hein.
Les vieilles dames.
Mathusalem, le journal qui n'a pas peur des vieux. 1977.
Elles sont 8, nous attendons. Calme, à fleurs, les cheveux clairs bien rangés, les genoux aussi, le corps disparaissant sur les robes fleuries. Une pourtant diffère. Elle est noire de cheveux teints, de robes décolletées. Sa peau est plus visible, plus présente. Ses jambes se croisent et se décroisent. Les fauteuils, rotins sages, ont un dossier qui permet un appui un peu raide, mais les bras sont confortables et elles sont installées pour un bon moment de causette. On les sent préparées à ces rencontres, à des échanges. Ce sont les vieilles dames d'un club. Elles sont venues nous dire « Qu'est-ce qu'être femme pour nous ?» La parole se distribuera des unes aux autres, montrant l'entraînement acquis par l'institution. la panoplie du travail de groupe nous est assurée. Un leader, un contradicteur, bref, le décor est en place.
Ce qui m'intéressait dans cette initiative du tournesol, c'est qu'elles sont entrées en conflit avec les petits frères des pauvres. Les petits frères des pauvres qui a financé ce centre et qui continue à être une association très active autour de l'insertion et de la lutte contre l'isolement et la pauvreté des personnes vieilles. Mais les petits frères des pauvres voulaient un centre destiné aux vieillards. Et ces travailleuses psy, essentiellement ayant des expériences dans la gérontologie, qui ont été mandatées pour créer ce centre social rue Saint-Maur, ont d'abord commencé par faire une enquête dans le quartier. Elles ont interrogé des personnes de plus de 65 ans et ces personnes-là ne voulaient pas être entre elles, elles voulaient quelque chose d'intergénérationnel. Et ça a été une sorte de conflit avec les petits frères pour faire valoir cette dimension-là. Les statuts de l'association ont peu à peu changé pour mettre en avant cette ambition de non-ségrégation des âges. Et c'était particulièrement vrai dans les années 70. Il y avait un très grand fossé d'expérience entre des gens qui avaient vécu les deux guerres mondiales, qui étaient majoritairement plus pauvres, moins diplômés, etc., et cette nouvelle génération des années 70. Et elles n'avaient pas la naïveté de penser qu'il suffisait de mettre ces gens ensemble. Donc elles avaient pensé à la fois des espaces non mixtes, des espaces d'entre-soi, des groupes de parole de retraités, des groupes pour les jeunes. Elles avaient expérimenté des cours de gymnastique inter-âge, et puis les vieilles, certaines avaient dit qu'en fait c'était un peu humiliant de se retrouver avec des gens beaucoup plus souples et beaucoup plus jeunes, donc elles essayaient des choses, et puis surtout, il y avait l'idée de mettre en avant des dimensions de l'appartenance ou de l'identité qui étaient transversales aux âges, dont les appartenances communautaires d'habitants du quartier.
Mais il y a l'autre, le révélateur, celle qui dit tout haut ce que les autres pensent peut-être tout bas. A-t-elle été sollicitée pour se joindre à nous? L'a-t-elle désirée? Elle va être l'instrument de mesure de l'écart entre la belle image sur papier glacé à l'usage de tous et la belle image fabriquée pour soi.
C'est à quelques mètres de la maison des métallos, rue Jean-Pierre Timbaud, et donc il y avait ce centre social, il y avait un tissu associatif et militant énorme, c'est un quartier où il y avait un des plus nombreux diversités de migrants et de luttes syndicales, associatives, il y a eu la commune, il y a eu 36, il y a eu etc. Et où cette culture militante locale contre les rénovations urbaines, la spéculation immobilière, la destruction des habitats du quartier, de s'unir autour de luttes partagées, quel que soit l'âge, ou autour de l'antiracisme. Elles ont organisé beaucoup d'événements contre le racisme ou pour les pédagogies alternatives, enfin, de créer un « nous » qui soit nous, les habitants du 11e, nous, et donc de créer de l'identité politique sans idéaliser cette initiative. Parce qu'il y a certaines conceptions de l'intergénérationnel qui sont très essentialistes, avec l'idée que les vieux, ils ont à nous apprendre parce qu'ils ont de la sagesse. Et c'est un peu ce qu'à l'époque, les petits frères des pauvres essayaient de faire valoir en disant que voilà, il fallait restituer une version un peu verticaliste aussi, le respect envers les aînés. Et leur conception, elle, était ni essentialiste ni verticaliste. C'est-à-dire, il y avait l'idée que les générations étaient égales entre elles, qu'elles n'avaient pas spécialement des qualités liées à leur position d'âge. Il n'y avait pas cette idée de altérité ou d'altérisation des aînés avec un nous qui serait nous, qu'on a beaucoup entendu hein, pendant les débats autour de la sortie du livre de Castanet sur Orpea et puis le Covid. Alors nous, voilà, on est tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos aînés? Cette idée que les aînés ne sont pas dans le nous, mais sont l'objet ou le destinataire d'une action. Et c'était pas tout à fait leur expérience.
Moi, j'ai participé au journal à partir du numéro 3, Féminisme et vieillesse. Et donc, moi, j'ai un peu décrit ce qu'était le mouvement des Panthères grises dans cet article. C'était une époque où on parlait de la question de la ménopause, de la question du temps de travail, temps de retraite. Enfin, on avait plein de sujets qui paraissent évidents, mais qui malheureusement n'intéressent pas grand monde. Et là, cette photo où on vend avec Dominique Levinguerez le journal dans un rassemblement du PSU, le Parti Social. C'était le Parti de Roca, toute cette bande. Et donc, nous, on était avec notre grand journal, comme vous le voyez, qui était un journal assez, qui dépassait complètement les formats de la presse.
Oui, c'est pas un format A4, c'est un format.
Voilà, pas du tout pratique, pas du tout. Pour les mettre dans les librairies, c'était très compliqué. Mais ce journal était splendide. Mathusalem, le journal qui n'a pas peur des vieux.
Numéro 3, décembre 1976, janvier 1977.
Ah oui, coûte 7 francs.
Une femme, quand elle se marie, si elle a du plaisir à épouser un homme, est-ce un avantage d'avoir un homme? Oui, quand elle tombe bien. Oui, mais moi, je peux pas parler parce que maintenant, je vis libre. Je vis mieux qu'une femme qui a un mari. Je fais tout ce que je veux. Quand une femme a un mari, il faut qu'il ait la même idée. C'est bien d'avoir une liberté économique et de ne pas avoir d'homme. Je peux aller n'importe où ou à n'importe quelle heure. Je n'ai personne pour me dire qui m'arrête. Et si vous aviez un mari, il faudrait qu'il comprenne ma liberté. Je suis très heureuse d'être libre.
Et ce qui est très très beau dans ce journal, c'est qu'il y avait toute une bande de Charlie Hebdo qui avait participé avec leurs dessins. Et c'est absolument splendide parce que évidemment, en plus, c'est très bien mis en page. Et ce journal n'a pas une ride, quoi. Il n'y a pas une page qui n'a pas du sens aujourd'hui. Donc, bravo Mathusalem. Donc, moi, je suis arrivée à Paris et j'ai rencontré cette bande. Et donc, on discutait, on parlait de nos histoires, nos préoccupations. Et on s'amusait beaucoup aussi, comme d'habitude, parce que c'est quand même une période où on s'amusait énormément, ce qui aujourd'hui paraît drôle parce qu'on rigole pas aujourd'hui.
Quels avantages à être femme? En quel sens?
Ah, il y avait beaucoup de gens liés à la psychiatrie de secteur.
Il y en avait. Début,
voilà, c'était le début. Sur les injonctions de Bruno qui me disait, mais il faut absolument que tu écrives ce que tu vois et tout ça. Je disais, moi, je ne sais pas écrire. Et donc, j'ai envoyé mes notes que j'ai envoyées à Simone de Beauvoir, qui à l'époque était au comité de rédaction des Temps modernes.
Ça dépend des
maris. À la fois sur les Panthères grises, sur les vieux aussi, parce qu'il y avait eu plein de mouvements dans les années 30 en Californie. Absolument pas reliés à des partis ou même des syndicats, et qui étaient des mouvements de vieux qui crevaient de faim et qui réclamaient des retraites meilleures. Et puis j'ai aussi fait une description de tous les syndicats, le NTSC, AARP et tout ça, qui étaient des grosses organisations à la manière américaine, super pro comme ils font, qui étaient un peu l'anti-panthériste, parce que les panthériste, ça fait partie des groupes beaucoup plus folklore, beaucoup plus imaginatifs, qui se foutaient éperdument des chefs, qui n'avaient qu'une envie, c'est de faire des choses, mais ils n'avaient aucune envie de se foutre dans une organisation. Et à mon grand étonnement, elle m'a répondu, elle m'a dit « Oui, oui, on va vous publier ». Elle m'a payé. Je t'ai payé 1300 francs, ce qui pour moi était un truc. C'est il y a 50 ans, ce qui est quand même ancien. Féminisme et vieillesse. Être femme et vieille, ça fait beaucoup dans une société comme la nôtre. Ce qui nous a donné envie de savoir comment le mouvement des femmes prenait en charge le problème de la vieillesse. Bien sûr, nous nous y sommes mises tardivement. N'empêche, personne ou presque dans les mouvements de femmes n'a, semble-t-il, encore réfléchi au problème de la vieillesse en général, ni à celui de la vieillesse des femmes en particulier.
Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle et trop dure. Mon bien s'en va.
C'est politiser la vieillesse et évidemment lutter, comme les féministes, contre la domination masculine. Mais ce n'était pas le thème
féminin,
principal.
Toutes ces bêtises-là qui nous relèguent au rang inférieur des esclaves.
Faire sortir la vieillesse de la sphère privée.
Éveillé par crème matinale, votre peau est prête pour une nouvelle journée.
On essaye de nous faire ressembler à des bonnes femmes qui n'existent pas. des bonnes femmes qui sont des mannequins, qui sont pimpantes, qui n'ont que ça à faire toute la journée.
N'empêche, personne ou presque dans les mouvements de femmes n'a, semble-t-il, encore réfléchi au problème de la vieillesse en général, ni à celui de la vieillesse des femmes en particulier. Moi, quand je suis rentrée en France, j'ai trouvé un boulot grâce à Anne-Marie Guillemard, qui était sociologue, et elle travaillait sur la vieillesse. Et elle m'a demandé de lui amener les documents que j'avais sur les notes que j'avais prises sur tous les équipements que j'avais vus à San Diego. Et elle m'a fait rentrer dans la caisse de retraite, où elle était conseillère, tu sais, sociologue, machin. Et c'était le groupe CRI, C-R-I, ça voulait dire caisse de retraite inter-entreprise, qui était une caisse gérée par les syndicats patronaux et ouvriers. Et donc, je suis rentrée dès qu'on est rentré en France en août de 1977. Et j'ai commencé mon boulot au mois de septembre, et j'étais ravie, je me suis dit, génial, une caisse de retraite avec plein de syndicats, ça va être le lieu où on va pouvoir changer les choses, machin. Et puis, j'ai fait des groupes de parole avec des vieux de la caisse de retraite. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai voulu appliquer ce que j'avais appris, c'est-à-dire les groupes de femmes qui s'expriment, les groupes de vieux qui s'expriment et tout ça. Personne ne comprenait une seconde, tu vois. Qu'est-ce que je foutais avec ces vieux à les écouter? Et à un moment, j'avais rêvé, dans ma grande naïveté, que j'allais intéresser les syndicats qui étaient très importants dans cette caisse, les syndicats salariés. Mais j'ai jamais eu de contact avec les syndicats. Et le directeur, il me recevait régulièrement avec un air amusé, en se disant, bon, Anne-Marie Guillemard, elle m'a foutu dans les pattes, cette fille qui est un peu cinglée. T'es une activiste, elle arrive des États-Unis, la Californie, tout ça. Il devait penser que j'étais gentille, tu vois. Tout un travail comme ça, un peu politique, de prise de conscience, c'était complètement en dehors des clous, quoi. Réunir des représentantes du mouvement 1975. Pour du moins ouvrir des pistes, ou même, plus modestement encore, tenter de comprendre le pourquoi de cet étrange silence, ce n'est pas possible non plus. Celles même qui ont accepté notre invitation, finalement, ne sont pas venues.
Les féministes, elles se sont attelées à travailler sur ici et maintenant. Ici et maintenant, dans les années 70, c'était quoi ? La lutte pour la contraception et pour l'avortement. Donc,
Rosemarie Lagrave,
la vieillesse, c'était,
sociologue.
Mais même moi, je n'y avais jamais pensé à ce moment-là. On était tellement prise par l'urgence des problèmes que ne pas avoir de gosse, ou en avoir quand on voulait, ou pouvoir se faire avorter si je veux et quand je veux. Mais aussi, il me semble que on ne s'éprouvait pas comme de futures vieilles. On était tellement en train d'inaugurer des pensées, des pratiques nouvelles, que ça repoussait l'échéance de l'âge.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est pris de court par la vieillesse?
Ah bah oui, je pense qu'on est pris de court. Chacun se débrouille de son côté et dans son coin. Puisqu'il n'y a pas de collectif, sauf un petit journal qui a eu Mathusalem, mais il n'y a pas eu de groupe de parole sur la vieillesse. Et il y avait très peu, dans les âgés, dans 70, de femmes âgées. On était tous, je ne sais pas moi, 20-30 ans, hein, en âge de procréer. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à des questions qui ne sont pas d'abord senti par celle qui les pose. Voilà. Et puis, deuxièmement, ensuite, il y a eu, on a donné la priorité à ces moments-là, dans le mouvement féministe, à la profession. Il fallait absolument qu'on trouve des postes, des métiers, des professions, et qu'on efface son trou, qu'on efface sa place. Et du coup, quand vous êtes dans la conquête de quelque chose, vous n'êtes pas en train de penser qu'à un moment donné, vous ne serez même plus dans le métier que vous avez voulu faire. Et deuxièmement, il me semble que dans beaucoup de métiers, à partir des années 70, les femmes ont été novatrices. Elles ont conquis des postes qu'aucune femme avant n'avait conquis. Donc elles se sont vues comme pionnières. Et on ne peut pas être pionnière et vieille, quoi. Et tout ça était référé à la jeunesse, comme si dans la vieillesse, on n'avait pas les mêmes ressources. Hein. Et puis, d'autre part, pourquoi on n'a pas pensé à la vieillesse? Mais parce qu'il y avait une espèce de narcissisme. Hein. C'est-à-dire on se prenait comme référent et on ne pensait pas qu'à côté de chez nous, il y avait des groupes de femmes vieilles qui mouraient dans des EHPAD ou qui... Voilà. Et, moi-même, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette cécité était si partagée et qu'il n'y avait pas quelqu'un d'entre nous. Un peu après, il y a eu Thérèse Claire qui nous a un peu agité pour nous dire « Oh là là, les filles, faites attention, regardez comme ça va vite, regardez où je suis. J'ai fait les Baba Yaga parce que je ne peux pas faire autre chose, quoi. »
Vous aviez quand même en tête le mouvement des Panthères Grises, vous aviez quand même...
En 70, non, on ne les connaissait pas, pas du tout. Or, ça nous a coûté beaucoup, parce que par exemple, avant qu'on ne pense à la situation située, on n'a pas pensé aux femmes maghrébines, on n'a pas pensé à un certain nombre de féminismes du Sud, comme on dit maintenant, que j'aime pas ce mot-là, mais on ne pensait pas à ça non plus, comme on ne pensait pas à la vieillesse. On ne pensait que dans, finalement, un univers relativement restreint qui nous donnait prise immédiate sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'on en fait et comment le penser. C'est vraiment du présentisme.
Ma Julie, mon canard, ma louloute, ma rose, ma nana, ma beauté, ma bergère, mon trou, mon lapin, ma pétasse, mon cœur, ma princesse, ma bourgeoise, mon rat, mon chouchou, ma lionne, ma poupée, ma gonzesse, ma femme, mon boudin, ma titine, ma toutoune, ma donzelle, ma conquête, ma brêle, mon poussin, ma cocotte, mon cœur, ma jouvencelle, mon échalas, ma poulette, ma déesse, ma morue, mon adorée, ma gigolette, ma joie de vivre, ma reine, mon cajot, ma mie, ma ronflasse, mon bijou, ma traînée, mon oiseau des îles, ma mécanique, mon roux-doudou, ma mijaurée, ma lumière, ma putain, mon morceau, mon kiki, ma chérie, ma némère.
Je suis seule maintenant, même si je vis avec... plusieurs copines et en fait je suis pas seule, pas vraiment seule, mais ma vie de 52 ans de vie de couple, elle s'est terminée il y a 3 ans, donc il faut se réinventer. Et les femmes veuves, il y en a des kilos, quoi. Donc cette question de la femme seule vieille,
oui, du veuvage,
même si j'aime pas, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, et ce mot qui nous fait peur, quoi. Et en fait, je me suis beaucoup posé de questions autour de qu'est-ce qu'on est quand on est féministe et veuve. Donc, c'est des choses qui me turlupinent et qui, je pense, aujourd'hui se posent. Parce que notre génération, c'est les baby-boomeuses. On est très nombreux. Et les veuvages, il va y en avoir plein qui vont être seuls. Parce que les mecs, ils s'en vont avant. Et je ne sais pas si ça va durer, d'ailleurs, parce que les femmes changent de mode de vie. Mais c'est une question importante de savoir qu'est-ce que nous, les femmes de notre génération, on va inventer. On a inventé plein de choses et je suis sûre qu'on va inventer encore des choses. Mais on a peur parce que l'image des femmes, le corps des femmes vieilles, c'est des choses qui sont terrifiantes. Et puis, ben moi, il m'est arrivé un truc extraordinaire. L'année dernière, je vais dans un café à Paris, c'est un grand boulevard, là, et je veux m'asseoir pour manger. Puis il y avait plein de places, je m'assieds à un endroit. Et le garçon de café me dit « Ah non, 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 vous n'avez pas le droit de vous asseoir là, allez là-bas. » Je lui dis « Non, écoutez, là c'est bien, j'ai envie d'aller là, il n'y a personne. » Et je suis partie, je lui dis « Moi je m'en vais parce que vous êtes tellement désagréable, vous connaissez les garçons de café parisiens. » Et le gars, il me dit « Oui, mais vous êtes vieille. » Et je me suis éclatée de rire. Ah, je lui dis « Ah mais oui, je vous remercie beaucoup, c'est vrai, je suis vieille. »
Je pense qu'on est une société qui déteste la vieillesse.
Francis Carrier, militant et cofondateur du CNAV.
La vieillesse, tant qu'elle se tait. C'est la photo de la vieille dame assise avec un pot de fleurs qui sourit niaisement avec son tablier, et puis il y a un jeune derrière, on sent qu'il est là pour l'aider. C'est l'image de la vieillesse que l'on veut. Une vieillesse active, on n'a pas envie. Une vieillesse qui parle de sa sexualité, on n'a pas envie. Les vieux doivent rester à sa place, ou alors ils ne doivent pas être vieux. Parce que ce qu'on nous dit toute la journée, c'est dire pour bien vieillir, restez jeune. Voilà ce qu'on nous dit. Et moi, c'est quelque chose que je déteste. Je ne vais pas courir après les crèmes de beauté, les opérations, les... Je ne suis pas là pour faire du macramé. Je suis là pour parler des choses essentielles qui sont liées à ma vie. Mes désirs, mes peurs, mes craintes, mes solidarités, mes rires. C'est tous ces aspects-là que j'ai envie de continuer d'évoquer. Je n'ai pas envie qu'on m'occupe, par exemple. Et ça va être le summum des politiques de la ville. Ah, on va prendre un bus, on va faire une voyage, on va faire ci, on va faire... Oui, bien sûr, je vais être plus laid, je vais être plus moche, je vais avoir du mal à monter les escaliers, je vais m'essouffler. Bien sûr, tout ça, c'est vrai. Mais je l'assume et ça fait partie de ma vie.
On lève le bâton très haut, on grandit le plus possible, on rentre le ventre, on descend doucement le bâton derrière la nuque, on tire les coudes vers l'arrière, c'est très bien, on revient, on se grandit, on descend.
Quand on devient vieille ou vieux, on est obligé de tout d'un coup se dire mais il y a du biologique là-dedans. Ce corps, il est fait d'anatomie, de biologie, qui se rappelle à notre bon souvenir, alors que jusque-là, on le mettait un peu sur le côté. Et là, il commence à prendre une centralité. Et on commence à écouter ce corps parlant, dont on a parlé... Dieu sait, dans le mouvement féministe, mais on n'a jamais dit de corps parlant des vieilles femmes. Or, ce corps parlant, il parle très vite. Ça commence des apparences réputées comme vieilles, c'est-à-dire les rides, les cheveux gris, mais c'est surtout pour moi des effets qui dessaisissent de l'énergie que l'on avait avant, comme la fatigue, comme les trous de mémoire, tous ces effets d'un corps qui commence à se déliter, ou au moins il y a un certain nombre de points qui rappellent l'avancée en âge.
Automatiquement, dans les 80-81... Ça part de bons sentiments et quand on automatiquement on dit ah ben Denis attends je te donne une chaise attends assois-toi on est au devant de vous et c'est super hein c'est super mais c'est là que tu ressens tu te dis oui bon ben c'est que parce que avant c'était le contraire c'était moi qui aidais plutôt j'avais le tempérament pour ça donc pour aider plutôt les autres donc c'est là que tu te dis bah oui c'est bon oui t'as l'âge que quand je vois ça je dis c'est pas possible d'avoir dans 3 ans je sais pas si j'irai jusqu'à dans 3 ans mais 90 ans j'ai dit, il y a beaucoup de femmes à Billy là qui sont dans ces âges là on est je vois dans nos groupes de chorale et tout ça puis ça se renouvelle pas c'est ça parce que je dis c'était ma voisine qui était à côté c'était la plus âgée maintenant c'est moi la plus âgée dans le coin.
Quand je me suis sentie plus fragile, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est tellement horrible? Pourquoi est-ce que la fragilité, alors que pour un enfant, on trouve que c'est plutôt sympa, on a envie de le protéger, on a envie de l'entourer, que sa marche soit assurée, la fragilité des vieux est repoussante. Et donc, il y a à travailler, non pas seulement sur la vieillesse, mais sur les qualificatifs ou les éléments qui la construisent et qui ne sont pas du tout seulement le fait de l'âge. Hein. Tant et si bien que si dans notre société au centre de notre société, si on mettait des valeurs comme la fragilité, la vulnérabilité, la lenteur, tout ce qui a mauvaise presse dans une société capitaliste où c'est la concurrence et la rapidité, hein, et le fait que tout soit obsolète très vite, eh bien, je pense que la vieillesse nous enseigne qu'on pourrait construire, à partir de ces valeurs-là, une société plus humaine.
On le sent qu'on vieillit ?
Non, on ne le sent pas vraiment dans sa tête, c'est dans son corps. Hein, c'est comme je dis, c'est la mécanique qui ne va pas. Pour l'instant, je monte encore dans ma baignoire, mais mais autrement, ça vient progressivement. Surtout, j'ai eu un métier qui était dur, donc physique, donc on subit les conséquences. Quand on est jeune, on ne pense pas. On manipulait beaucoup de choses lourdes, et puis par tous les temps sur le marché. Mais bon, chaque métier a ses inconvénients.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ?
Alors, j'étais poissonnière sur le marché de Palais pendant 35 ans. Après l'art celtique, les bijoux, je me suis retrouvée à vendre du poisson. L'été, on travaillait. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de tourisme. Mais il y avait les usines. Donc, on a travaillé à l'usine. Et à Palais, ils faisaient un peu aussi les coquilles Saint-Jacques l'hiver. On n'était pas pensé au j'ai mal ici ou j'ai mal là. Hein. Non, on y allait. Et puis. Oui, maintenant, avant, je courais. Hein, je marchais. C'était pas marcher. C'était courir. C'est ça. Et bon, on me dit encore, quelquefois, ne marche pas si vite, ça sert à rien.
Les mains de Jeanne-Marie, Parti communiste français, 1975.
Ses mains n'ont pas vendu d'orange, ni bruni sur les pieds des dieux. Ses mains n'ont pas lavé des langes, des lourds petits enfants sans yeux. Ce ne sont pas mains de cousine, ni d'ouvrière au gros front, que brûle au bois puant l'usine un soleil ivre de goudron. Ce sont des ployeuses d'échine, des mains qui ne font jamais mal, plus fatales que des machines, plus fortes que tout un cheval.
Qu'est-ce que ça veut dire politiser la vieillesse exactement ?
Politiser au sens de faire qu'une question qui est considérée comme n'étant pas sujette à un changement social possible puisse être transformée dans l'espace de la conflictualité, c'est-à-dire pouvant être l'objet de plusieurs types de politiques. Et la vieillesse, déjà l'histoire des politiques de la vieillesse, elle est assez récente dans l'échelle de l'histoire de France, puisque ça date des années 60. Ce groupe qu'on commence à appeler le troisième âge. Donc, est-ce que c'est plutôt l'aide à domicile ? Est-ce que c'est plutôt les maisons de retraite ? Qu'est-ce qu'on fait avec les retraités pour qu'ils participent au monde social ? Donc, la création des clubs du troisième âge, des universités du troisième âge, etc. Beaucoup de personnes avec qui j'ai fait des entretiens qui étaient des militantes jeunes dans les années 70 autour de la question de la gérontologie, disaient mais on voyait déjà se profiler tout le marché de la silver economy, même si on ne disait pas silver economy à l'époque, mais le fait que le troisième âge allait devenir une source de business, même si à l'époque les vieux n'avaient pas encore beaucoup de pouvoir d'achat, comme on dit, mais il commençait à y avoir des complexes. Par exemple, Nice commençait à... Il y avait de la spéculation immobilière aussi autour des maisons de retraite pour les vieilles et les vieux. Après l'apparition des croisières et tout ce marché du troisième âge, avec aussi l'apparition plus tard des EHPAD privés ou de la délégation au privé par le public de la gestion des EHPAD. Et donc cette politisation, c'est aussi dire, en fait, on peut faire autrement. Faire ainsi, c'est avoir une certaine conception de la vieillesse. Et simplement, il y a une forme d'inertie, d'indifférence globale, même s'il y a une forme d'indignation ponctuelle autour de ces questions de mauvais traitement. Mais ça peine à devenir un problème public massif. Et là, il y a eu cette loi grand âge qui avait été annoncée, puis finalement enterrée. Et les acteurs du secteur sont très amères, en fait, de cette mise en scène d'une indignation qui n'est pas suivie d'investissements massifs dans le secteur.
Bonjour, je vous présente Francis, mon copain, mon ami et surtout le co-présentateur de cette nouvelle télé, Télévioc. Alors Francis est un militant associatif, inventif, le fondateur de Grey Pride et bien sûr un militant de la cause de la vieillesse et un adhérent du Conseil national autoproclamé de la vieillesse.
Et je vous présente Laure Adler, que vous connaissez certainement tous, mais qui est aussi une militante de la cause des vieux et qui donc n'a pas hésité à s'engager et pour travailler sur cette nouvelle chaîne Télévioc.
Alors Télévioc, c'est une télévision qui s'adresse pas simplement aux vieilles et aux vieux, mais elle s'adresse à tout le monde parce que tout le monde est concerné par la vieillesse. C'est une télé collective avec une équipe de rédaction collective et c'est une télé qu'on veut subversive, joyeuse, réaliste. Ça sera une demi-heure à peu près tous les mois. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce journal ?
Ben, nous aurons des reportages, des interviews, des sujets d'actualité, mais avec la particularité de sujets que vous ne verrez ou n'entendrez nulle part ailleurs. C'est une période de notre vie qui est pour moi, aujourd'hui, largement sous-estimée et qui est largement rejetée par la société, et je ne trouve pas ça normal. Et c'est ce qui fait qu'on est dans un impasse dans l'accueil, dans l'accompagnement, dans la construction de toute cette population qui est de plus en plus stigmatisée. Bon, là, on parle des boomers, vous savez, qui captent tout, toutes les richesses, c'est eux qui ont le fric, etc. C'est Nicolas Kippé, ça contient aussi la petite musique des vieux qui sont des parasites, qui bouffent la société. Et c'est là qu'il va falloir construire un discours. Et c'est là qu'il va falloir pouvoir montrer ce que l'on fait et à quoi nous servons. Parce que bien sûr qu'on a une responsabilité. Il suffit pas de dire, j'ai du fric et je vous emmerde. Non. D'abord, tous les vieux sont pas riches. Mais pour autant, on a une responsabilité qu'il va falloir progressivement établir. C'est-à-dire, quel est notre rôle? On réclame de vouloir rester dans la société. Mais quel rôle on va avoir et comment on va permettre à la société de s'épanouir avec nos particularités? Parce que nous pouvons apporter autre chose que la rentabilité, l'efficacité, la rapidité. Au contraire, on va apporter le regard plus lent, l'éloge de la lenteur, d'une beauté différente, d'une réflexion. Pour moi, tout ça est quand même inhérent à la vieillesse et on doit porter ces valeurs fièrement pour pouvoir intégrer la société, peut-être la faire changer.
Et d'ailleurs, c'est quoi être vieux ?
Demain, j'ai 94 ans. C'est mon anniversaire demain, le 4 août. C'est une date historique, non pas par ma naissance, mais c'est la nuit de l'abandon des privilèges à la Révolution. J'ai choisi ma date. J'ai eu la chance de vivre en Italie, j'ai adoré l'Italie. Puis ensuite, avec mon mari qui était médecin militaire, on a vécu en Afrique, donc me retrouver derrière les murs d'un appartement, pour moi, c'était difficile. Donc le bateau était le choix de la liberté. Je serai dans un appartement, je ne verrai personne à mon âge. Sur un bateau, j'ai des gens qui passent, on parle au hasard avec des gens qui sont dans le jardin ou sur le quai. Je ne suis jamais seule, donc je ne me rends pas compte de mon âge. Je ne sens pas mes années. Et j'ai pas de problème de santé, ni de mobilité en fait. Bon, je marche moins vite et je ne monte pas les escaliers en courant. C'est tout. J'espère être en bonne santé jusqu'au dernier moment, parce que je ne me vois pas ailleurs que dans le bateau. J'aimerais être la première centenaire du port.
Ben vous le serez sûrement.
Peut-être. Je vais tout faire pour.
Et vous n'avez pas de famille qui vient vous voir
J'ai pas de famille. Ma famille, c'est le port.
En ayant perdu mon mari, avec qui j'avais quand même vécu 52 ans, donc c'est, je suis dans une nouvelle ville et vie, et qu'est-ce que je vais inventer maintenant ? Parce que j'étais tout à fait, même si je pleurais et que c'est une épreuve épouvantable de perdre son mari, et c'est une épreuve épouvantable de vider un appartement de tout ce qu'a fait votre vie, et vous avez l'impression de vous décoller la peau. Toi, chaque geste, chaque objet a une histoire. Les camionneurs qui vident par la fenêtre toutes les affaires, c'est effroyable à voir. Et du coup, d'abord, j'étais complètement soutenue parce que j'étais accompagnée par une amie. Elle m'a pas lâchée d'une semelle. Elle avait 32 ans. On a complètement partagé ce départ comme une nouvelle aventure. Et le voyage du 6e arrondissement à Montreuil a été un grand saut dans une autre vie. Camille s'est installée, elle n'avait plus d'appart. Il y a eu d'autres amis qui sont venus, mes copains qu'elle ne connaissait pas. Moi, j'ai connu ses copains, ses copines. On a commencé à faire de la musique le soir parce que chacun peut jouer. En fait, on a continué ce que je faisais. Hein. C'est pas différent, sauf que Bruno n'est plus là. Plus le monde qui va horriblement mal. C'est très violent ce qui se passe. Quand vous n'êtes plus dans une vie de couple amoureuse, il faut vivre tous les jours ces violences, je trouve, politiques. C'est aussi quand vous perdez votre mari que vous devenez vieille. Parce que quand on est marié, qu'on fait plein de choses, qu'on est là, je ne pense pas que la dimension vieille soit très puissante. C'est un peu comme si c'était une nouvelle conscience qui venait du fait d'être seule. Mais n'empêche que dans sa tête, on est seul, puisqu'on dort seul dans un lit. Donc, il y a une solitude. Et après, étant à Montreuil, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fous maintenant ? Et je suis allée à la Maison des Femmes. En fait, je n'étais jamais rentrée. Je vois sur la vitrine les photos de Angela Davis, Toni Morrison, Frances Daubonne, toute cette bande de femmes, ça me fait du bien. Je rentre, il y avait un petit groupe installé autour d'une table. C'est comme si j'avais retrouver le fil de mon histoire, donc je pense que ça m'a fait énormément de bien. Et puis je chante, oui, alors ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chants dans ma vie, c'est fondamental. Mais j'arrivais plus à chanter ces dernières années. Donc la musique revit un peu en moi, je pense qu'elle était un peu assommée. J'ai l'impression surtout d'avoir retrouvé ce que j'étais, puisque je suis la même que quand j'ai 15 ans et que je trouve qu'une vieille dame indigne, c'est génial. Donc je suis à 15 ans, mais en même temps, je suis complètement augmentée. C'est assez drôle à dire, mais j'ai vraiment l'impression d'être je suis la même augmentée. Quoi.
On a une obligation que ce rien du tout après ne fasse pas le vide avant. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on se vive, on se tienne et on se tienne collectivement, digne et le plus possible consciente devant la mort et devant la maladie et devant l'invalidité. Parce que on y passe, hein, et on peut pas en vouloir aux vieilles femmes, parce qu'il y a un moment donné où le féminisme, qu'est-ce qu'il nous avait appris ? Que toute notre vie, c'était la conquête de l'autonomie et de la liberté. Et que sans l'autonomie et la liberté, c'est-à-dire faire en sorte que la domination sociale et la domination masculine soient ravalées au plus petit dénominateur commun. Néanmoins, cette autonomie que nous avons essayé de gagner, tout le monde n'a pas pu le faire. Hein, il y a des femmes empêchées d'être autonomes. Il y a des femmes empêchées d'être libres. Et ce n'est pas parce qu'elles ont consenti, mais c'est que leur consentement était extorqué. Et donc, un des enseignements de la vieillesse, c'est de dire, on ne doit pas, comme le font souvent des soignants, demander aux vieux et aux vieilles d'être autonomes. C'est avant qu'il faut travailler l'autonomie. C'est depuis l'enfance, il faut travailler l'autonomie et la liberté pour que on ait déjà acquis cette espèce d'habitus de l'autonomie avant de mourir et avant d'être vieille. Parce qu'il me semble que si on a exercé son autonomie, et Dieu sait si c'est toujours un combat, pendant toute sa vie, on ne perd pas tout quand on arrive à la vieillesse. Et donc ça donne des ressources pour faire face à un moment où on sait très bien que vont nous être retirés un certain nombre de ressources physiques qu'on ne récupère pas.
Officiellement, je m'appelle Hélène Yesserov.
Ma sirène.
Mais mes parents sont russes.
Mon enfant.
C'est que les Russes ont la manie de donner des surnoms.
Tout petit.
Qui ressemble pas au nom. Marie. Et mon nom, en fait, c'est Lola.
Un poussin.
Pour les Russes.
Ma grue.
Très vite, c'est venu Lola et.
Ma sorcière.
Quand j'étais petite, je savais pas que je m'appelais Hélène, quoi.
Mon compteur.
Donc je suis Hélène Yesserov forever, quoi. Je suis une jeune autrice, au sens où je n'ai publié qu'à 70 ans. Vieillir sans temps mort. Mourir sans entrave. Et le sous-titre, manifeste de désobéissance sénile. J'ai tout craché dedans, quoi. J'ai tout mis. Ça a été vite. J'avais des choses à dire sur le vieil âge. Et voilà. J'ai foncé dedans. Je prône une vieillesse de combat. Or, ce combat, c'est pas un combat que j'entends mener entre vieux et que pour les vieux. Mais ça concerne tout le monde. Vous aurez compris que et les catégories qui divisent les gens en saucisson identitaire, c'est pas mon truc. En fait, j'ai été très proche d'un tas de gens qui étaient dans le Black Bloc, et le Vieux Bloc, c'est l'idée que, dans une manif, par exemple, on peut se grouper et faire une force d'interposition. Bien que les flics nous tapent dessus, tout à fait joyeusement maintenant, on peut pas s'en plaindre puisqu'on y est. Hein. Mais malgré tout, on peut parfois jouer de ça. Je crois qu'on est têtu. C'est ça, l'explication. On est têtu, on est obstiné. Je sais que je verrai pas la révolution, même si je me raconte que c'est possible. Mais on s'en fout. L'objectif, hein, c'est que la lutte compte plus que le résultat. Parce que la lutte qui me fait me sentir en vie.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs. D'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard. Et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition.
C'était « Quand les femmes vieillissent » épisode 4 « Un bel âge pour la révolte » une série documentaire de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Avec Rose-Marie Lagrave, Juliette Rennes, Lola Misseroff, Chantal Latour, Dominique Boltanski, Francis Carrier, Laure Adler et Denise. Merci à Françoise Leborgne, Michel Billier, Ingrid Voléry, Laurent Benahim, Bernadette, Moïra, Odile, Mireille, Ginette Kolanka et Eliane Aymon. Lecture du journal Mathusalem par Olivia Bruno. Vaud die Schönen Trompeten Blasen par Chantal Latour. Annette Messager, Mathusalem, le journal qui n'a pas peur des vieux, 1977. Extrait de TV Vioc, 2025.
Les malades sont prohibés.
Prise de son Alexandre Martin. Mixage Manu Couturier. Archivina Sylvia Monduc. Documentation Annie Signoret, chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales, coordination Emmanuel Laurentin.
Les vieux sont jetés aux orties.
Toute la série est à réécouter en podcast sur le site de Radio France.
Voici ce qui m'attend demain. Si jamais je perds mon chemin. D'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis
ni loin.